Chères auditrices, chers auditeurs, si vous fréquentez les ondes de transistor depuis quelque temps, vous avez peut-être remarqué un de mes penchants dans la vie, la géographie. Il y a un autre de mes penchants que je vous ai caché jusqu'ici, Xavier Dolan. Je l'ai découvert avec Mommy et j'ai tout de suite adoré. Puis sont venus Laurence Anyways, Les Amours Imaginaires, J'ai tué ma mère et surtout en 2019, Mathias et Maxime. J'adore ce film. Je pourrais le revoir sans cesse, je ne m'en lasse pas. Quoi de mieux donc, à l'occasion de ce direct sur la Saint-Valentin, que de te faire une déclaration d'amour à la géographie et à Mathias et Maxime, en parlant d'amour et de géographie dans le film. Je sais, ça paraît tiré par les cheveux, mais je suis convaincue que ce film est tout particulièrement géographique. Vous noterez par ailleurs que l'équipe de Transistor s'est fortement concertée. Et avec Clara, on a décidé de transformer ce direct de la Saint-Valentin en direct de géographie. Bon, malheureusement, si vous n'avez pas vu ce film, il va falloir que je vous le résume un peu. L'heure d'un week-end entre amis dans un chalet au bord d'un lac. Mathias et Maxime doivent jouer un baiser de cinéma pour un film étudiant. Cette scène fait naître, ou renaître, on ne sait pas, un désir entre les deux personnages qui, de retour en ville, tentent de faire face à cette attirance nouvelle et à ses implications dans leur vie quotidienne. Un élément est particulièrement intéressant dans ce film, c'est la diversité des problématiques qui se posent aux deux protagonistes. Mathias et Maxime ne vivent pas du tout pareil la situation. Et géographiquement, c'est le personnage de Mathias qui m'intéresse. Donc pour vous dresser un peu son portrait, c'est un bel homme de 30 ans, avocat dans une grande entreprise qui porte un costume pour aller travailler et qui vit avec sa copine. En gros, un homme hétéro, dont la vie est totalement conforme aux standards de réussite pour un homme qui appartient à la classe supérieure.
Est-ce que vous êtes déjà embrassé avant?
Hey boy,
jamais fait dans la vaisselle, là, ce que?
Parce que c'est ça, la scène que vous allez jouer dans le court-métrage d'Erika.
Le gars qui se French.
Je l'avais-tu dit ou je l'avais pas dit qu'il y a une gosserie avec son esti de film plat?
Là, t'as dit à moi que t'avais pas tes affaires de ton côté, fait que fais tes affaires de ton côté puis arrête de faire chier mes amis que t'es des marques.
C'est pas une idée de marque, là. C'est juste que ça
arrête
pas que tu nous
aies. Qu'est-ce que ça fucking change? Vous arrêtez pas de comme faire des tresses pis genre de wrestle comme les esti de wack.
C'est vrai qu'ils se sont fait de chance à mon approche?
Ouais, c'était classique.
Ouais, c'est pas un classique tant que ça, sinon Matt, il l'aurait pas oublié.
Mais c'est clair que Matt, il crie pas sur l'autre de son char. J'ai frenché Max secondaire 3, never forget.
Maintenant que les présentations sont faites, venons-en à ce qui m'intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Le rapport entre espace et exploration de son orientation sexuelle. Ce qui est marquant quand on regarde Mathias et Maxime et d'autres films de Xavier Dolan d'ailleurs, c'est l'opposition entre espace qu'on pourrait qualifier de naturel, ou en tout cas espace non urbanisé, et espace urbain. D'ailleurs, le film s'organise autour d'un week-end que les amis passent en forêt entre amis. Et c'est pendant ce week-end que les deux héros s'embrassent. La nature apparaît donc comme un espace de potentielle découverte et d'exploration des limites du désir et de la sexualité. Alors que, comme nous allons le voir tout au long du film, les espaces urbains sont moins perméables à ce genre d'expérimentation. En fait, dans Mathias et Maxime, la ville est intrinsèquement hétérosexuelle. L'espace est marqué par des publicités qui représentent une famille standard, un papa, une maman, deux enfants. Il y a des photographies érotiques et pornographiques dans les bars, donc qui représentent des femmes. Et d'ailleurs, on ne voit pas les lieux hétérosexuels, les lieux homosexuels de la ville, alors même que Montréal a un des quartiers gays les plus anciens et les plus importants. C'est-à-dire qu'alors même que la ville est normalement dans la mythologie homosexuelle, l'espace par excellence de la découverte de sa sexualité et donc d'exploration des possibles, Mathias n'a pas accès à cette partie de la ville et doit, entre guillemets, se contenter des quartiers hétérosexuels. Dans le film, il y a deux personnalités qui apparaissent comme homosexuelles. Je dis « apparaissent » parce que quand c'est explicite pour un des amis de la bande qui s'appelle Rivette, pour le second, il s'agit de mon interprétation. Alors, je vous rassure, j'en ai parlé autour de moi, les gens sont souvent plutôt d'accord. Et donc l'autre personnage, c'est Kevin, un avocat qui vient de Toronto pour travailler avec Mathias à Montréal, quelques jours. Kevin représente dans le film le gay refoulé, qui dénigre tout ce qui peut faire penser que son désir n'est pas totalement hétéronormé, qu'il ne correspond pas à la norme. Donc pendant tout son séjour avec notre héros, qui dure quand même un certain temps dans le film, il a une utilisation très impersonnelle de la ville. Donc certes, ce n'est pas sa ville, on peut supposer qu'il va dans des espaces qui lui sont familiers, mais justement c'est ça qui est intéressant. Il ne fréquente que de ce qu'on pourrait appeler des non-lieux, c'est-à-dire des espaces fonctionnels nés de la mondialisation qui sont standardisés et déshumanisés, porteurs d'une rupture avec les lieux anthropologiques comme le foyer par exemple. On le croise dans un aéroport, dans un restaurant, dans des bureaux. Et dans le film, le paroxysme du non-lieu, c'est bien sûr le strip club. You wanna hot body? You wanna boot daddy? You wanna Maserati? You better work, bitch. You wanna Lamborghini? Sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy? Live in a big mansion. Alors oui, la bande originale de ce film est merveilleuse, donc pourquoi s'en priver ? Donc, après cet intermède aussi inattendu qu'apprécié, j'en suis sûre, surtout pour les personnes qui sont dans le studio et qui n'entendent pas la musique, il est temps de se demander pourquoi le strip club est le paroxysme du non-lieu hétéronormé selon moi. En tout cas, comme il est représenté dans le film. D'une part, il s'agit d'un lieu avec une identité propre. Il s'agit d'un lieu qui n'a pas d'identité. Oula, je vais arriver. Qui n'a pas d'identité propre. Sa décoration ressemble grosso modo à ce que je présume ressemble beaucoup de strip clubs. Ou en tout cas à l'image qu'on s'en fait. D'autre part, il s'agit du temple du désir normalisé. Les stripteaseuses qui y travaillent ne sont pas recrutées pour leur qualité propre, pour leur beauté singulière, mais plutôt parce qu'elles collent avec l'image stéréotypée de la femme sexy. Elles sont blanches, fines, ont des fortes poitrines, une longue chevelure, portent des talons et des strings. Quoi de mieux finalement pour notre cher Kevin, qui en fréquentant ce strip club s'assure bien que personne ne se posera de questions sur sa sexualité, et qui d'ailleurs tentera de ne pas s'en poser lui-même. Vous aurez peut-être remarqué que je commence à être bien longue et que je n'ai toujours pas abordé la grande question des espaces non-urbains. Pas de stress, j'y viens dès maintenant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux personnes homosexuelles. On a parlé de Kevin, homosexuel aussi urbain que refoulé. Il s'agira maintenant de nous pencher sur le grand Rivette. A l'inverse de son prédécesseur, Rivette est un homme de nature. On ne le rencontre pas dans des espaces urbains, si ce n'est des espaces qui lui sont intimes, chez sa mère ou chez ses amis. C'est à l'inverse le propriétaire du chalet dans la forêt. Et lentement mais sûrement, on en arrive à mon deuxième point. Les espaces de nature ont, durant tout le film, une valeur ambivalente. Il s'agit des espaces dans lesquels les personnages peuvent se ressourcer, se retrouver, être en accord avec leurs désirs, un peu dans la tradition du paysage d'état d'âme romantique. Et c'est donc en forêt que nos deux héros s'embrassent. Mais les espaces de nature sont aussi des espaces potentiellement dangereux, qui sont hostiles à l'homme et qui remotivent tout l'imaginaire du sauvage, du bestial, etc. Un espace dans lequel il faut être un homme, un trappeur, un chasseur, un bûcheron. Dans cette perspective, les garçons du groupe d'amis pratiquent une masculinité démonstrative, à grands coups de batailles, de surnoms dégradants et de personnes jetées dans le lac. Et donc dans cet espace de monstration virile du groupe d'amis, l'expression du désir homosexuel des personnages est totalement impossible. Comme on l'a entendu tout à l'heure, pour ceux d'entre nous qui maîtrisent le québécois, les amis se moquent un peu du baiser entre Mathias et Maxime. Donc, si je résume la situation. D'un côté, on a une ville anonyme, mais dans laquelle le protagoniste fait face à une forte hétéronormativité, face à laquelle il peine à se questionner sur son désir. D'un autre côté, quand il est dans la nature, il retrouve une liberté qui est brimée par le conformisme masculin qui s'y joue. La solution, à ce stade du récit et de notre analyse, semble insoluble. Cette impasse se résout dans la suite du film, résolution parfaite pour les géographes que nous sommes. Mais pour éviter de vous divulgâcher la suite des aventures de nos deux héros, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette balade géographique. Entre grands espaces forestiers québécois et rues agitées de Montréal, à la recherche du désir de Mathias. Et pour finir cette chronique, je ne pouvais m'empêcher de vous diffuser cette chanson d'Amir qui me rappelle un des moments les plus fameux de ce film et qui a le mérite de parler du thème qui nous réunit aujourd'hui, l'amour.
J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes lacs, qui dans j'en ai les lèvres de pierre. Tu m'as